Bonjour aux chrétiens de Cholet, on les salue tous très fort. On est content d'être avec vous ce matin. Ça sera probablement la dernière fois pour l'année 2016 et on se retrouvera donc en 2017. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que le temps passe vite. Et donc le thème du jour, il n'est pas difficile à trouver. Il suffit de regarder autour de vous. Vous avez même le texte biblique de ce matin sur le mur. C'est fort quand même. Heureusement qu'on a pris un court texte. Un fils nous est donné. Vous avez compris quel est le thème. Nous sommes à deux semaines exactement de Noël. Un jour attendu par tellement d'enfants. Donc, c'est pas trop un effet de surprise ce matin, je veux pas entretenir le suspense. Pour introduire ce thème, vous le connaissez, et le texte biblique qui a été choisi pour cette année, c'est « Un fils nous est donné », car un fils est né, et un fils nous est donné. Donc, ça parle forcément de cadeau. Vous voulez savoir ce qu'il y a dedans ? Qui c'est qui dit qu'il n'y a rien là? Vous n'avez encore rien vu, vous dites qu'il n'y a rien. C'est pas possible. Dans un cadeau, il y a toujours quelque chose. C'est léger, c'est vrai que c'est très léger. Mais il y a quelque chose, même si c'est que de l'air ou de l'oxygène, c'est déjà quelque chose. Donc, effectivement, pour Noël, il y a les incontournables. Alors j'en citerai trois. Il y a la déco, la décoration. Vous allez dans n'importe quelle ville maintenant, au début décembre, toutes les villes de France, d'Europe, partout où on fête Noël, elles s'habillent de lumière. Même les plus petits villages, j'ai remarqué des fois dans un petit village où il y a quelques maisons seulement, vous avez 3-4 loupiottes qui clignotent à droite et à gauche. Alors c'est souvent très modeste, bien sûr, surtout avec la crise. Il n'y a pas trop de guirlandes. Mais c'est pour rappeler cette période dans laquelle nous sommes. Donc incontournable, la décoration. Et j'imagine que chez vous, vous avez déjà, même si c'est peut-être symbolique, mais d'autant plus quand il y a des enfants, bien sûr, il y a le sapin de Noël, il y a les bougies, il y a les guirlandes, enfin, il y a des quantités de choses qui rappellent cette fête. Ça fait partie des incontournables. Donc là, cette année, on a fait quand même assez fort, vous avez vu. Vraiment, beaucoup ont travaillé. Et tout cela, c'est que pour cette année, en fait. L'année prochaine, il y aura un autre thème. Vous voyez qu'on a les moyens ici à Angers. Il y a des créatifs. Il y a des artisans aussi, parce que c'est du travail. Il a fallu des heures et des heures. Donc la déco, c'est important. Ça crée l'ambiance, une bonne atmosphère de Noël. C'est très important. Puis en plus, il y a de la neige le jour de Noël. Alors là, c'est le top. Ah ouais. Bon, attendez. Là, c'est mal parti. Les nuages, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. On a du brouillard, mais pas beaucoup de nuages. D'accord ? Autre incontournable, et surtout en France, c'est quand même la nourriture. Là, il n'y a pas de Noël sans le fameux réveillon autour d'une table, avec les incontournables dans ce réveillon, bien évidemment, quand on est en France. Vous avez vos préférences, certainement, mais on retrouve souvent à peu près les mêmes ingrédients, les mêmes plats, et là aussi, ça fait partie des incontournables. Même si on est malade après, même si on a du mal à digérer, même si on a une indigestion, on y va quand même. Et on le fait même deux fois qu'une. 25 décembre et 1er janvier. Et puis autre incontournable, ce sont bien sûr les cadeaux. Les cadeaux. Là, effectivement, c'est la grande question du moment. Alors, il y a ceux qui se disent, qu'est-ce que je vais bien acheter ? Qu'est-ce que je vais bien acheter ? qu'est-ce qui lui plairait? Pas le tout d'acheter quelque chose, mais encore, il faut que ça plaise. On peut tous acheter. Puis le problème, c'est que quand on a trouvé, on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls. Donc on arrive, rupture de stock. Ah, mauvaise nouvelle. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, comme certains. Pourquoi vous me regardez? C'est la question peut-être que vous êtes posée avant le culte, une question très spirituelle, vous voyez, pour s'engager dans le culte. Alors, t'as fait tes cadeaux? Et puis l'autre qui répond, oh, m'en parle pas, là, là. Il y a du monde partout. Il n'y a pas ce que je veux. Voilà, ça fait partie, hein. Ça fait partie de la période avant Noël. Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a 2 ans de cela, j'avais pris ce thème des cadeaux et je vous avais présenté une petite liste des cadeaux les plus chers au monde. Puisque notre titre à nous ce matin, c'est le plus beau cadeau du monde. Le plus cher. Donc j'ai voulu voir ce qu'il y avait à côté, un peu, hein, de celui dont nous allons parler ce matin. Et donc je vous ai fait une petite sélection, rapide bien sûr, subjective bien évidemment, j'ai pris ce que je préférais, parce que autant... Donc je vais vous montrer un peu la petite sélection que... ça c'est un tableau de Steen, un néerlandais, du 17e, donc on voit là... La distribution des cadeaux, une belle peinture, et on voit la petite fille là qui est contente d'avoir sa poupée. Ça c'est la partie culture là. Hein. On passe à autre chose maintenant. Donc il y a la montre Chopard. C'est une montre, hein, c'est une montre. Ouais, faut deviner, mais c'est une montre. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la montre? Avant le prix, hein? Donc, elle dispose de 3 diamants en forme de cœur. Il y a le rose de 15 carats, le bleu de 12 carats et le blanc de 11 carats, avec évidemment toutes les pierres caratées. Ouais. Des pierres caratées, ouais, avec beaucoup de carats. Il y a beaucoup de carats. Ouais. Donc, le nombre total de carats pour cette montre, c'est 201 carats. C'est pour ça qu'il l'appelle la Chopard 201. Vous vous demandiez pourquoi? Chopard 201, c'est 201 carats. Un prix, 25 millions de dollars. Voilà. Combien? Il n'y en a pas pour tout le monde. Hein, À Cholet aussi, il y en a des amateurs. Il y a la bague au diamant bleu de Chopard aussi. 9 carats. Et... elle fait un peu plus de 16 millions de dollars. Hein. C'est quand même la pierre la plus précieuse et la plus demandée en Europe. Il y a de l'argent là en Europe. Pas que là, mais... donc ça, c'est la bague la plus chère au monde. Ensuite, vous connaissez le propriétaire de ce petit bateau. Il est au fond, là-bas. Il a levé la main. Mais il veut rester discret. Hein. Il veut être tranquille pour ses vacances. Donc, c'est un Russe qui est le propriétaire. Roman Abramovitch. C'est le propriétaire du club de football de Chelsea, à Londres. Petite fortune personnelle, 10 millions de dollars. Ça va? Donc ce bateau, quand même, 500 millions d'euros. Ça va? On se fait une croisière, là, pour Noël? Allez, un autre pour les enfants. Je trouvais qu'il était mignon, là, l'ours en peluche, quand même. C'est mignon. Ouais? Alors... il est en laine de mohair et en soie, avec une bouche et un nez sertis de 24 carats d'or. Un prix pour ça? 25 000 dollars. Hein? Avec le petit éléphant qui va avec. C'est mignon quand même, hein? Un outil indispensable dans la société moderne dans laquelle nous sommes, c'est bien sûr... ah ouais, c'est l'iPhone. C'est le téléphone. Et celui-là, il est spécial, bien sûr. C'est pour ça qu'il l'appelle King's Button. Ça veut dire des boutons royaux. Hein, avec certi diamant, d'or. Il vaut quand même 2,4 millions de dollars. Ouais. Avec ça, vous prenez le petit forfait quand même. Hein. Hein, à 9,90 euros ou... Allez, pour les amateurs de voitures, il fallait bien une voiture quand même. J'ai pris une voiture française quand même. Vous savez ce que c'est ça? C'est la Bugatti. La Bugatti, mais bon, j'ai pas pris la Chiron ou la Veyron, les spécialistes connaissent là. Non, j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci, elle est type 57 Atlantique de 1936. C'est quand même... Oh, pour quel prix elle a été vendue, celle-là? 30 millions de dollars. 30 millions. Il y en a qui sont abattus, ils regardent ça et disent, mais... Mais oui, c'est dans notre monde. Un petit appartement aussi, peut-être, pour les vacances? Vous voulez ça? Alors, je vous ai trouvé ça. Ah non! Oh, c'est pas grave, c'est pas dans le bon ordre. C'est un petit parfum, quand même. Un petit parfum pour mesdames. C'est l'Imperial Majesty qui coûte quand même 215 000 dollars. Hein? C'est sûr que ça fait cher la goutte, là. Vous voyez? Là, quand vous appuyez sur le spray, là, vous voyez, vous dites, ça y est, là, 10 000 dollars. D'accord? Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, là, vous n'avez pas envie que ça aille chez le voisin, vous voyez? Et ensuite, le petit appartement, ouais. La maison Antilla. Oh, celle-là, elle est spéciale quand même. C'est à Mumbai, en Inde. Il y a 22 étages, 37 000 mètres carrés, ouais. Là, je suis sûr que le couple, là, ils peuvent passer un mois sans se croiser. Hein? La hauteur 165 mètres et 22 étages. Le prix, hein, vu sur la mer, 1 milliard. 1 milliard. Bien moi, je vais vous parler d'un cadeau qui vaut encore plus cher. Et qui est gratuit. Il est à la fois cher et gratuit, c'est pas mal quand même. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, l'origine des cadeaux à Noël, les spécialistes, les historiens, il y en a qui remontent jusqu'à l'époque de la royauté à Rome, la première époque avant la République, les étrennes qui étaient faites en l'honneur. C'était les étrennes à l'époque. C'était le 1er janvier, c'était au début de l'année. Et puis ça a évolué avec au Moyen-Âge, avec la nativité, les fêtes liturgiques de l'année, et notamment la nativité. Puis à partir du 19e siècle, ça a commencé à devenir surtout une fête familiale aussi. Et pendant longtemps, en fait, le seul cadeau qui était distribué à Noël aux enfants, vous savez, c'était quoi? Il y en a qui en ont eu. Hein. Je sais, ma mère en fait partie. C'était encore la génération où on ne donnait qu'une orange pour Noël. Vous imaginez les gamins d'aujourd'hui? Essayez ça, tiens, dans 15 jours. Dis, tiens, je vais te donner le même cadeau que ta grand-mère a eu. Vous allez voir leur tête. Ils vont voir une orange et puis ils en verront dans la cuisine un kilo ou deux. Mais à l'époque, c'était ça, en fait. Ça a bien changé, bien sûr. Le marketing est entré en liste. La grande société de consommation que nous vivons, elle a vu le filon, bien sûr. Elle a bien profité. Et puis, ça s'est énormément généralisé. Et aujourd'hui, on est dans, j'ai envie de dire, cette débauche. de cadeaux de toutes sortes. Alors, il y a les cadeaux qui sont sans contrepartie en général. Ce sont ceux qu'on fait aux enfants. On ne leur demande pas d'en faire, eux. Mais entre adultes, ouais, ça marche bien, hein, entre adultes. Je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau. Je te redonne un cadeau, tu m'en redonnes un. Non, c'est pas ça? En contrepartie? L'inspiration, bien sûr, et je pense que le cadeau, en fait, reste une des marques les plus évangéliques qui soit, en fait. Il y a deux grandes valeurs évangéliques, qui sont aussi considérées comme des grandes valeurs dans le monde. C'est un, la gratuité, et deux, la confiance. La confiance, la Bible appelle ça la foi. Et la gratuité, la Bible appelle ça la grâce. Et certainement que ce qui définit le mieux l'Évangile, ce sont ces deux mots, grâce et foi. Et on va surtout parler du cadeau, en fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, il l'a donné. Ça a donné à... Ça, on va voir ces deux points, ce que ce cadeau révèle sur Dieu et sur l'humanité. Et pourquoi est-ce si difficile de le recevoir? On pourrait se dire, mais quand même, un cadeau d'une telle valeur... En général, on ne dit pas non au cadeau. Hein. Mais pourquoi est-ce si difficile de le recevoir? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui n'en veulent pas? Pourquoi même est-ce que pour nous, des fois, ça a mis longtemps pour qu'on puisse le recevoir, qu'on accepte de le recevoir? Mais d'abord, on va s'arrêter sur ce que ce cadeau en soi peut vouloir nous dire de Dieu lui-même et de nous aussi. C'est Paul qui dira... À la fin d'un chapitre où il parle de la générosité. Sur deux chapitres, 2 Corinthiens 8 et 9, il parle de la générosité parce que il y avait des chrétiens en Judée qui souffraient de la famine. Donc, il écrit aux chrétiens de Corinthe, entre autres, pour leur demander d'aider matériellement, financièrement ces chrétiens qui sont leurs frères et sœurs qui sont en Israël et qui sont dans le besoin. C'est une des raisons pour laquelle il a écrit cette lettre aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens. Et donc il leur demande d'être généreux. Et à la fin de ce chapitre, à la fin de ces deux chapitres, il termine. Est-ce que j'ai mis le verset? Je pense l'avoir mis. Non, je l'ai pas mis. Rendons gloire à Dieu pour le don ineffable. Rendons gloire à Dieu pour le don. Il termine comme ça. Rendons gloire à Dieu, remercions Dieu pour le don ineffable, dans la personne de Jésus, bien sûr. Pour le don incomparable. Il y a une version qui dit, pour ses bienfaits extraordinaires, pour ce don indescriptible, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Rendons gloire à Dieu pour ce don ineffable. On va voir ensemble ce que ce don peut dire sur Dieu et sur nous aussi. Il y a quelque chose qu'on aime bien quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est l'effet surprise. Non? Quand même, ça joue. Hein? Ce qu'on aime bien, c'est de deviner ce que l'autre aime, ce qu'il voudrait, et de lui acheter et de lui donner ce cadeau, et puis de laisser découvrir et de faire cette surprise. Avec les enfants, c'est parfois difficile, hein, parce qu'ils cherchent. Nous, on avait l'habitude à la maison de mettre les cadeaux. Au fur et à mesure qu'ils étaient achetés, on les mettait au pied du sapin. Donc chaque fois, ça commençait pratiquement en début décembre, et donc les filles revenaient de l'école, elles se jetaient au pied du sapin pour voir s'il y avait un nouveau cadeau. Et puis, elle prenait la boîte et puis elle, Elles secouaient. Elles essayaient d'entendre. S'ils avaient pu regarder à travers le papier et le carton. Alors, il y a des fois, ça aurait pu être facile à trouver. Donc nous, et vous me connaissez pour certains, j'aimais bien compliquer les choses. Donc un petit cadeau comme ça, je le mettais dans une boîte énorme. Donc elles s'attendaient à voir. Elles imaginaient des tas de choses. Et puis quand elles ouvraient... Quoi ? Quoi ? Ça y est, vous allez m'accuser de maltraitance d'enfant ? C'est incroyable, ça. On ne peut pas s'amuser. Mais ce qu'on aime bien, c'est l'effet surprise. C'est de trouver quelque chose et que l'autre, celui qui reçoit ce cadeau, c'est la chose qu'il rêvait d'avoir, mais qu'il pensait surtout pas avoir. Voyez. Là, quand on fait ça, on dit, ça y est, on a gagné. C'est vrai avec Dieu. Et avec Dieu, ça a bien marché. Parce qu'en plus de cela, quand Dieu a dit qu'il allait faire un cadeau, il a annoncé longtemps à l'avance. C'est comme Noël, on sait que ça arrive. Et les enfants savent que ça arrive, ils comptent les jours, ils ont le calendrier de l'Avent, ils savent. Même ceux qui ne savent pas encore compter, ils savent que ça vient. Et Dieu a fait pareil, Dieu a annoncé, mais la différence c'est que Dieu n'a pas donné de date. Donc ça a duré longtemps, des générations et des générations. Il se disait, ça y est, le Messie va venir, et ça va être pour notre génération, il pensait que c'était lui. Et puis, l'effet de surprise est arrivé. Parce que le jour est arrivé sans que Dieu ait donné la date. Et bien sûr, les hommes voulaient, et Israël voulait un Messie, un libérateur. D'autant plus qu'ils avaient bien des problèmes à cette époque, des problèmes politiques, économiques, comme c'est souvent le cas. Et trouver un Messie, c'était vraiment être libéré de tous leurs problèmes et de pouvoir enfin trouver la liberté, la prospérité. Enfin, ils rêvaient de cela et pensaient que le Messie qui allait venir, c'est ce Messie qui allait leur apporter cette richesse, cette liberté. Vous savez, ça va beaucoup changer, hein. Vous allez voir avec les élections qui arrivent, il y en a qui vont croire au Messie encore. Ils vont dire, ça y est, ça va être notre Messie. Il y en a qui ont pensé, il y en a qui pensent que c'est Trump en ce moment, ils pensent que ça va être leur Messie. Puis d'autres vont penser que là, en France, ça sera tel et tel homme politique ou telle et telle femme politique. Et ils vont croire, ils vont dire, ça y est, c'est lui qui va. Donc vous voyez, ces supporters, c'est impressionnant. Vous voyez, ces gens, ils y croient vraiment. C'était aussi la grande attente d'Israël pendant longtemps, et quand le Messie est arrivé, il y a eu un choc là, il y a eu une surprise. D'abord parce qu'il est né à Bethléem, c'était pas très glamour. Hein? Les conditions dans lesquelles ça s'est passé, il a grandi à Nazareth. On pensait à l'époque, mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Sûrement pas. Puis en plus, il est mort sur une croix, enfin... Et tous ceux qui s'étaient attachés à lui pendant un temps, ce jour-là, c'était fini, bien sûr. Pour eux, il n'y avait plus rien. Le monde n'a pas changé, bien sûr. Le problème vient du fait que l'homme et Dieu n'ont pas la même analyse sur la nature du problème. D'une manière générale, peut-être un peu caricaturale, dans notre monde, les gens pensent que quand ils ont des problèmes, ce sont les autres. Non ? De manière générale, c'est toujours les autres. Ça a commencé en Éden, hein, avec Adam et Ève. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est lui, le serpent. Enfin, c'est toujours les autres. Quand les gens pensent problème dans leur vie, dans la société, ils pensent toujours aux autres. Ce sont les étrangers, il y en a trop. Ce sont les riches, il y en a trop. Ce sont les pauvres, il y en a trop aussi. Dans le sens où ce sont des profiteurs, des assistés. Ce sont les patrons, il y en a trop. Ce sont les salariés, il n'y en a pas assez. Et pour les parents, ça peut être les enfants, pour les enfants, ça peut être les parents. Enfin, c'est toujours les autres. Ça, c'est l'analyse que nous faisons, d'une manière générale, des problèmes que nous avons. Donc, si nous cherchons une solution, un remède, un messie, pas un footballeur, hein, un messie IE, ben, c'est celui qui va nous débarrasser des autres, de ceux qui nous gênent, de ceux qui nous empêchent d'être heureux. Pour Israël, il y a 2000 ans, c'était les Romains. C'est les Romains qui les empêchaient d'être heureux. Donc pour eux, le Messie devait les débarrasser des Romains et aller retrouver leur indépendance politique et vivre comme du temps du roi David ou Salomon. C'était ça le Messie qu'ils voulaient. Sauf que c'était pas la solution que Dieu voyait pour l'homme, parce que Dieu fait pas la même analyse ou le même diagnostic. Quel est son diagnostic? On va le regarder ensemble au travers de cette vidéo. Bien fait, de Dan Stevens. Il fait comme ça des vidéos qu'il met à disposition des églises. Un gros, gros travail. Et tout est dit dans cette vidéo. sur la nature du problème et la raison de cette solution que Dieu a trouvée et a offerte à ce monde et qui passe par un don, passe par un cadeau. C'est la particularité, bien sûr, de l'Évangile par rapport aux autres religions, qui, d'une manière générale, propose toujours une solution, mais qu'il faut payer, d'une manière ou d'une autre. Il faut mériter. L'Évangile, c'est la religion de la grâce par excellence. Pensez, pour comprendre ce que Dieu a fait au travers de Christ, en donnant Christ, quand il a donné son Fils, pensez un instant à votre pire ennemi. Ça y est, vous l'avez trouvé ? Vous en avez bien un ou deux, hein ? Quelqu'un que vous n'aimez pas trop. Quelqu'un qui vous casse les pieds un peu au bureau. Un voisin qui fait du bruit la nuit. Ben voilà, vous l'avez trouvé, hein ? Ça y est. Et pensez à ce que vous avez de plus cher et de plus précieux. Et là, pour Noël, dans 15 jours, vous allez lui apporter. Vous allez lui donner. Il y a des volontaires ? Non ? Vous êtes collectionneur de montres, par exemple, et vous allez donner votre plus belle montre à votre pire ennemi. Moi, j'ai un beau-frère, il faut que je précise de quel côté, qui est un collectionneur de montres. Il en a une centaine. Il est très, très belle. Alors, ce n'est pas du côté les roues, c'est pas Alain, c'est pas les deux Alain, parce que j'ai deux beaux-frères qui s'appellent Alain. C'est du côté Sacco, de l'autre côté. J'ai un de mes beaux-frères qui est un amoureux des montres. Et il y a 3 ans de cela, il m'a offert une de ses montres de sa collection. J'étais touché, bien sûr. Une belle montre, montre de marque. J'ose même pas la porter, j'ai tellement peur qu'elle casse. C'est terrible. Vous dites, ouh là. Mais, petite différence, je ne suis pas son pire ennemi. Je suis son beau-frère et même son ami. Et puis, ce n'est pas sa plus belle montre qu'il m'a donnée non plus. J'ai vérifié. Il m'en a donné une belle, mais il en a des plus belles encore. J'attends qu'il me donne la plus belle un jour, je ne sais pas. Mais d'abord, il faudrait peut-être que je devienne son pire ennemi, je ne sais pas. Ça, on le fait, et les cadeaux que nous allons faire dans 15 jours, ça, on va les faire à des gens qu'on aime, à des gens avec qui on a une bonne relation, avec nos enfants, nos petits-enfants. On va faire ces cadeaux à des parents, à des frères et sœurs, ou à des amis, des gens proches en tout cas, des gens qu'on aime. De manière générale, on ne fait pas des cadeaux à des ennemis. Aussi, c'est un cadeau qu'on leur fait, c'est un cadeau empoisonné, vous voyez ce que je veux dire? Celui dont on parle ici aujourd'hui, c'est un cadeau qui est fait par quelqu'un à son pire ennemi. Et il a donné le meilleur, ce qu'il avait de plus beau. Sa plus belle possession, en fait. Et gratuitement. Gratuitement. Pourquoi est-ce si difficile de le recevoir ? On pourrait se dire quand même, un cadeau comme ça, ça ne se refuse pas. Non ? J'imagine que les cadeaux que vous allez recevoir dans 15 jours, vous n'allez pas les refuser. Vous allez les prendre. Là, il s'agit du plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, qui vient de quelqu'un qui nous aime, alors que nous, nous n'avons rien fait pour lui plaire. Et pourtant, on a le culot de dire non. J'en veux pas. C'est une question qu'on peut se poser, ça, de dire, mais pourquoi est-ce si difficile? Alors, pour comprendre cela, imaginez maintenant que dans 15 jours, quelqu'un de votre famille, un proche, vous donne un cadeau. Disons que c'est un livre. Il y a certainement des livres qui vont être offerts, prix Goncourt et autres. Mais ce livre-là, quand vous l'ouvrez, vous voyez, vous prenez le cadeau, puis vous découvrez que c'est un livre, et quand vous ouvrez le livre, le titre c'est « Comment ne plus être égoïste en 10 leçons ?» Non ? Vous allez l'accueillir avec joie le cadeau là ? Vous allez regarder la personne et dire « Qu'est-ce que tu veux dire là ?» On nous a donné un carton de livres cette semaine. Et dans ce carton de livres, je ne sais pas qui c'est qui a donné ça, il y a ce livre-là, trouvé intéressant comme cadeau. Le plaisir de cuisiner pour rester mince. Je trouve ça intéressant, hein. Si vous trouvez ça au pied du sapin, vous comprenez qu'il y a un message là. Non ? Il y a des cadeaux qui paraîtraient bizarres. Ça, on n'attend pas que ça soit un cadeau. On va l'acheter soi-même, vous voyez. Si on sent qu'on en a besoin d'un. On n'attend pas qu'on nous l'offre. Pourquoi ? Parce que ce seraient des cadeaux qui mettraient le doigt sur quelque chose qui ne va pas en nous. C'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de l'accueillir. C'est pour ça qu'on n'en fait pas, justement. Parce qu'on a envie de faire plaisir ce jour-là. Donc tout ce qui est message un peu négatif, on le met de côté pour ce jour-là. Mais le cadeau que Dieu nous fait, quand il nous dit un fils nous est donné, et quand on voit pourquoi il a été donné, là, oui, c'est parce que tu es un pécheur. Vous voyez ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que ce cadeau-là met le doigt sur nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections, nos fautes, nos échecs. C'est pour cela que Jésus, quand il va donner ses béatitudes, il va commencer par « Heureux les pauvres en esprit ». Ceux qui vont accepter ce cadeau, Jésus dit, ce sont ceux qui vont reconnaître leur pauvreté, reconnaître leurs besoins, leurs faiblesses. Ceux-là, ils vont le prendre, ils vont se dire, mais ça tombe bien. C'est le cadeau idéal, parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas me changer, je ne peux pas me transformer, je ne peux pas me réparer. Je suis condamné, je suis perdu. Et là, il y a quelqu'un qui m'offre un salut gratuit. Une justice, et qui est gratuit. Gratuit. Je terminerai en vous donnant, en vous proposant un petit test. Un petit test pour savoir si vous avez bien reçu le cadeau. Vous avez envie de savoir ? Que là, d'une certaine manière, je dis ça, puis beaucoup d'entre vous disent, bah, nous, ça y est, un fils nous est donné, mais ça fait des années, moi je suis chrétien, tu sais, Daniel, ça fait 40 ans. Vous voulez qu'on fasse le test quand même ? Hein ? Ce test-là, il va venir avec 2 questions. Et tout dépend comment vous allez répondre à ces 2 questions. Et je vous demande d'y répondre, c'est sérieux. Je vous demande de répondre à ces 2 questions, pour savoir si vous avez accepté le cadeau. S'il fait partie de votre vie. La première question, Suis-je prêt à obéir à tout ce que la Bible me dit, que cela me plaise ou non? Ah! Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible me dit? Tu aimeras tes ennemis. Facile, ça? Tu pardonneras à ceux qui t'ont offensé? Vous dites, oh non, non, ça, non, ça ne me plaît pas, ça. Ah, non, non, non. Non, 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 lui, t'as vu ce qu'il m'a fait, lui? C'est pas possible. C'est comme ça qu'on parle d'une manière générale. Humainement parlant, oui, on se dit, c'est pas possible. Mais si j'ai reçu ce cadeau, ça veut dire que je suis rendu capable de pardonner mes ennemis. Et vous prenez tout le reste. Il y a des choses qui... On les lit des fois, on se dit, oh non, pas ça, Seigneur. Non, il y a des choses qui sont plus intéressantes. Mais si j'ai reçu ce cadeau, s'il est devenu mon roi, mon Seigneur et mon Maître, ça veut dire que je suis prêt à obéir à tout ce que la Bible me dit. Si Dieu l'a dit, ça suffit. C'est en cela que je démontre que j'ai bien reçu ce cadeau. Si je ne suis pas capable de faire cela, si je trie, si je sélectionne, si je prends et j'en laisse, ça veut dire que je ne l'ai pas reçu. Ça va? Vous restez? Partez pas tout de suite? Alors, deuxième question. Suis-je prêt à faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances bonnes ou mauvaises? Est-ce que je suis prêt à lui faire confiance et à rester dans cette confiance avec lui, quelles que soient les circonstances de ma vie? Pas forcément les bonnes, bien sûr. Le jour de Noël où tout le monde est ensemble et on est là, on est heureux, en famille, on s'aime, ben ça va. Mais quand ça commence à se déchirer dans l'année, quand la maladie arrive, quand la mort arrive, quand le chômage arrive, quand des problèmes matériels et autres arrivent, est-ce que je suis prêt encore à lui faire confiance? Comme Job, par exemple. Ça, c'est ce qui va démontrer si nous avons bien reçu ce cadeau ou pas. Pour ceux qui ne l'avaient pas, qui l'ont jamais reçu, voyez ce que ça va vous rendre capable de faire. Pour ceux qui disent avoir reçu, ben vérifiez, contrôlez si vous l'avez reçu. En disant, oui Seigneur, moi, tout ce que tu dis dans ta parole, ce que je trouve dans ta parole, même si ça ne me plaît pas, je le prends. Parce que ça vient de toi. Moi je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ça serait bon pour moi, mais toi tu le sais, tu me connais mieux. Donc, je le reçois. Et puis, les circonstances de la vie, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Et dans ces circonstances, quelles qu'elles soient, je suis prêt à te faire confiance, quoi qu'il arrive. Car un fils nous est né et un fils nous est donné. Jésus, c'est le seul qui a été donné, le seul fils qui a été donné. Nous, fils et filles, nous sommes tous fils et filles de quelqu'un. Nous sommes nés, mais nous n'avons pas été donnés au monde. On peut dire, on parle comme ça, voilà, il a été donné à cette famille, Dieu l'a donné à cette famille, mais là, il est question de Jésus qui a été qui est né pour être donné au monde. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre que lui. Ça, c'est ce cadeau qui nous a été fait dans la personne de Jésus. On comprend pourquoi Paul, qui savait cela, quand il parlait de la générosité aux chrétiens de Corinthe en les appelant à être généreux pour leurs frères qui étaient dans le besoin au Moyen-Orient, et terminé en disant, mais vous rendez compte, ce que Dieu nous a donné, rendons grâce à Dieu pour son don ineffable. Rendons grâce à Dieu. Si nous connaissons la valeur de ce cadeau, à quel point il répond exactement aux besoins que nous avons. Il n'y en a pas d'autre en fait. À sa gratuité, et au fait qu'on le reçoit par la confiance, simple que nous mettons ou plaçons en Dieu lui-même. Je voudrais demander aux musiciens de revenir et nous allons prendre un temps d'adoration justement pour faire ce que Paul a fait, rendre grâce à Dieu pour ce don ineffable. Seigneur, nous voulons te glorifier pour ce don. Nous ne le prenons pas comme un dû, Seigneur. Prenons cela, ce don, comme une grâce. Nous allons nous rappeler dans quelques instants le prix que tu as payé, toi, pour que nous puissions, nous, recevoir ce don. Merci pour ce Fils qui nous a été donné, Seigneur, qui devient notre roi, qui est le roi des rois. Et nous voulons qu'il soit le roi dans notre vie et le Seigneur, qui fait que tout ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, eh bien, nous voulons le faire et t'obéir. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous passons et dans lesquelles nous sommes peut-être aujourd'hui, quand elles sont mauvaises, difficiles, eh bien, nous voulons encore te faire confiance, Seigneur, plus que jamais. Merci pour cela, Seigneur, que nous n'oublions jamais, Seigneur, que c'est ce message-là que tu nous as laissé dans cet événement de ton incarnation, de ta venue, ici-bas sur cette terre. Alors nous sommes là, Seigneur, comme tes adorateurs, pour te dire merci. Merci d'être venu. Merci, Père, d'avoir donné ton Fils. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie, afin que nous puissions être sauvés, être libérés. Libérés de nous-mêmes, Seigneur. Le problème, nous le savons, il est dans notre cœur. C'est toi qui es venu réparer ce cœur pour le purifier et nous donner, Seigneur, d'être tes disciples, tes enfants, tes fils et tes filles. Nous bénissons ton nom. Levons-nous, si vous voulez bien, pour le glorifier et louer ensemble. On dit au revoir à nos frères et sœurs de Cholet. On leur souhaite un bon Noël. Que Dieu les bénisse et à bientôt. Alléluia.